Chapitre 30. Des hommes rêvent ici.
Ces capes blanches ne sont pas causant, madame,
dit Lassile avec un sourire malicieux.
Mais ce sont quand même des hommes, et ça fait un moment qu'ils n'avaient pas vu l'ombre d'une femme. Un truc qui leur fait toujours perdre le peu de bon sens qu'ils ont.
Feil longeait les rangées de chevaux, une lanterne à la main. Perrine dormait déjà. Ces derniers jours, il se couchait tôt, en quête du rêve des loups. À contre-cœur, les fils avaient accepté de retarder le procès. Mais Perrine devait quand même préparer ses arguments, en tout cas selon Feil. Quand elle le lui disait, il marmonnait qu'il savait exactement ce qu'il allait raconter. Le connaissant, il déballerait simplement son histoire à Morgaz, sans fioriture, comme d'habitude. Lassile et Sélandé flanquaient Feil. D'autres fanatiques suivaient ce trio, tous les sens aux aguets.
« Je crois que les capes blanches ont compris que nous étions venus les espionner. »
annonça Sélandé. La petite femme au teint très pâle marchait avec la main posée sur la poignée de son épée. Désormais, elle n'avait plus du tout l'air empotée. Son entraînement à l'escrime, elle avait pris très au sérieux.
« Moi, j'en doute fort, »
répondit Lassile. Elle portait toujours un chemisier ocre et une jupe marron foncé. Sélandé était revenu au pantalon et elle semblait se méfier de sa lame. Après tout, elle gardait une entaille au bras, en souvenir du moment où son âme avait failli la tuer. Lassile semblait ravie d'être en jupe.
« Ils n'ont quasiment rien dit d'exploitable, »
insista Sélandé.
« Exact, »
admit Lassile.
« Mais je mettrai ma main au feu qu'ils sont toujours comme ça. Notre prétexte, voir comment allaient Megdine et les autres, tenait très bien la route. Nous avons pu livrer ton message, Dame Feil, et parler un peu avec les soldats. Je les ai assez taquinés pour obtenir quelques informations. »
Feil arqua un sourcil, mais Lassile se tut, tandis qu'elle passait à côté d'un palefrenier occupé à étriller un cheval.
« Les fils respectent Galad, »
reprit Lassile dès qu'elles furent hors de portée d'oreille.
« Mais quelques-uns râlent à propos de ce qu'il leur a dit. Et il leur a dit quoi ? Il veut que les fils s'allient aux Aes Sedai pendant l'ultime bataille. N'importe qui aurait pu te dire que ces hommes détesteraient ça, »
rappela Sélandé.
« Ce sont des capes blanches. »
« Exact, »
concéda Feil.
« Mais ça montre que Damodred est plus raisonnable que ses fils. » « Ton information est très utile, Lassile. »
Ravie du compliment, mais modeste, la jeune femme passa une main dans ses cheveux, repoussant les rubans rouges qui les attachaient. Depuis sa captivité, elle en mettait deux fois plus qu'avant. Devant la petite colonne, un type élancé jaillit soudain d'entre deux chevaux. Doté d'une épaisse moustache à la mode du Tarabone, il paraissait très jeune, mais avec des yeux qui semblaient avoir vu beaucoup trop de choses. Daniel Lewin dirigeait les gardes de rivière depuis le départ précipité de Tam. La lumière veuille que ce brave homme se porte bien, où qu'il soit allé.
« Daniel ?»
dit Feil.
« Quelle coïncidence de te voir ici ?»«
Coïncidence ?»
répéta l'homme en se grattant la tête. Son arc au poing, il lui jetait régulièrement des coups d'œil méfiants. Dans le camp, c'était devenu une habitude.
« Tu m'as demandé de venir, Dame Feil. »«
Certes, mais si quelqu'un pose des questions, ça devrait être une coïncidence. Surtout si ce « quelqu'un » est mon mari.
« Je n'aime pas cacher des choses au seigneur Perrine, »
maugréa Daniel en emboîtant le pas à Feil.
« Tu préfères risquer qu'il soit décapité par une bande de fils enragés ?»«
Non, et aucun de mes hommes ne veut ça. »«
Donc, tu as fait ce que je t'ai demandé ?»
Daniel hocha la tête.
« J'ai parlé à Grady et à Neal, oui. Perrine leur a déjà ordonné de rester dans le coin pendant le procès. Mais nous avons un peu parlé. Grady a mis au point un tissage d'air. Avec, il saisira le seigneur Perrine et l'exfiltrera, si ça tourne au vinaigre. » Néald couvrira leur retraite. J'ai vu la question avec mes gars. Des archers postés dans les arbres seront prêts à créer une diversion.
Feil acquiesça. Aucun des deux achamans n'avait été blessé au moment de la bulle maléfique, et c'était un sacré coup de chance. Les deux avaient un couteau, lequel s'était retourné contre son propriétaire, mais d'un geste nonchalant, il avait fait exploser en vol. Quand des messagers avaient accouru avec l'astuce de Feil, jeter de la terre sur les armes, la section du camp où se trouvaient les deux hommes en noir s'était révélée bien plus calme que les autres. Slalomant entre les tentes, Neald et Grady détruisaient toutes les armes rebelles qu'ils apercevaient. La guérison des blessés motivait pour de bon la demande de retarder le procès. Mais il n'y avait pas que ça. Ce délai, Perrine en avait besoin pour que les forgerons et les armuriers remplacent les armes perdues. Juste au cas où les débats tourneraient à la bataille rangée. Feil aurait juré que ce serait le cas.
« Le seigneur Perrine n'aimera pas qu'on l'entraîne loin du combat, »
dit Daniel.
« Pas du tout. »«
Ce pavillon risque de devenir un piège mortel. »
rappela Feil. «
Perrine pourra diriger le massacre si ça lui chante, mais depuis l'arrière. Il faudra l'évacuer. »
« Compris, madame. »
soupira Danil. Perrine apprenait à ne pas avoir peur de jeunes taureaux. Pas à pas, il assimilait la notion d'équilibre. Le loup quand il fallait le loup, et l'homme quand il fallait l'homme. Lorsqu'il se laissait entraîner dans une chasse, il n'oubliait plus Fail ni son foyer. Bien entendu, il marchait sur le fil du rasoir, mais chaque pas renforçait sa confiance. Aujourd'hui, il traquait Sauteur, une proie expérimentée et rusée. Mais jeune taureau apprenait vite, et avoir le cerveau d'un homme lui conférait un certain avantage. Il pouvait penser comme quelque chose ou quelqu'un qu'il n'était pas. Noam avait-il commencé ainsi? Jusqu'où ce chemin pavé de compréhension le conduirait-il? Y avait-il au bout un secret que jeune taureau devrait découvrir? L'échec était exclu. Il devait apprendre. Étrangement, plus il prenait confiance en lui dans le rêve des loups, plus il se sentait à l'aise avec lui-même dans le monde réel. Jeune taureau chargeait dans une forêt inconnue. Non, une jungle, plutôt, avec des lianes et des plantes aux larges feuilles crénelées. Les broussailles étaient si denses qu'un rat aurait eu du mal à s'y frayer un chemin. Mais jeune taureau, lui, exigeait que le monde s'ouvre devant lui. Alors, les lianes s'écartaient, et les plantes retiraient leurs feuilles comme une mère qui tire ses enfants hors de la trajectoire d'un cheval au galop. Jeune taureau aperçut Sauteur qui bondissait devant lui. Mais sa proie se volatilisa très vite. Il ne ralentit pas, atteignit l'endroit où il avait vu le vieux loup et, à l'odeur, détermina où il était allé. En un éclair, il se retrouva dans une plaine où ne se dressait pas un seul arbre. En revanche, des buissons inconnus s'accrochaient au sol. Dans le lointain, Sauteur apparaissait comme une série de lignes floues. Jeune taureau suivit, chaque foulée lui faisant avaler une centaine de pas. En quelques secondes, ils furent à l'approche d'un énorme plateau. Alors que Sauteur continuait à courir sur le versant de cette butte, comme s'il n'était pas aussi abrupt qu'une muraille d'enceinte, jeune taureau décida d'oublier les lois de la physique et le suivit. Il courut, un abîme dans le dos, le nez pointé vers le ciel barbouillé de nuages noirs. Sautant au-dessus d'anfractuosité, il rebondit entre les deux flancs d'un défilé et prit enfin pied au sommet du plateau. Sauteur attaqua, mais jeune taureau était prêt. Il se jeta au sol, atterrissant à quatre pattes, tandis que son agresseur volait au-dessus de lui. En plein bond, Sauteur se volatilisa et réapparut de l'autre côté du plateau. Jeune taureau devint Perrine et il tenait un marteau fait de bois doux. Dans le rêve des loups, de telles choses étaient possibles. Si le marteau touchait sa cible, il ne lui ferait aucun mal. Perrine frappa, l'air sifflant, tant son mouvement était rapide. Loin d'être lent, Sauteur esquiva, contourna son adversaire et lui sauta dans le dos, prêt à y planter ses crocs. Perrine se décala, mais très légèrement, afin d'être près de sa position de départ. La mâchoire de Sauteur se referma sur du vide et le marteau s'abattit de nouveau. Un épais brouillard enveloppa soudain Sauteur. Le marteau de Perrine traversa cette purée de poids et s'écrasa sur le sol avant de rebondir. Le jeune homme jura et pivota sur lui-même. Avec cette brume, impossible de voir Sauteur et de capter son odeur. Apercevant une ombre dans le brouillard, Perrine plongea. Mais ce n'était qu'une illusion d'optique. Vraiment? D'un coup, des ombres virevoltèrent partout autour de lui. Des silhouettes de loups, d'hommes et de créatures qu'il ne parvenait pas à identifier. « Approprie-toi le monde, jeune taureau, » émit Sauteur. Perrine se concentra, pensant à de l'air sec et à l'odeur puissante de la terre. Dans un paysage aride comme celui-là, l'air aurait dû être ainsi, sec et odorant. Non, rien à voir avec ce que l'air aurait dû être. Il était ainsi. L'esprit, la volonté et la sensibilité de Perrine se heurtèrent à un obstacle. Obstiné, il chargea et le traversa. La brume disparut, dissipée par la chaleur. Devant Perrine, Sauteur était assis paisiblement. Il regardait sur le côté, vers le nord, comme si quelque chose attirait son attention. Puis il se volatilisa. Perrine repéra son odeur, l'analysa et la suivit pour débouler sur la route de Djeana. Hors de l'étrange dôme, Sauteur courait le long du mur de verre. Très fréquemment, les deux amis se décalaient jusqu'à cet endroit pour voir si l'obstacle n'avait pas disparu. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Perrine continua la poursuite. Le dôme était-il conçu pour piéger des loups? Si c'était ça, pourquoi Tuur n'avait-il pas plutôt lancé son traquenard sur les versants du pic du dragon, où tant de loups, pour une raison inconnue, étaient en ce moment rassemblés? Du coup, le dôme avait peut-être un autre objectif. Le long de son périmètre, Perrine grava dans sa mémoire l'aspect très particulier d'une poignée de rochers. Puis il rejoignit Sauteur sur une petite butte. Quand le loup bondit, disparaissant en plein vol, il n'hésita pas avant de le suivre. Alors, il capta l'odeur de la destination du vieux loup. Il s'y propulsa aussi, sans transition, puisqu'il ne prit même pas le temps de s'arrêter. Il se matérialisa un pied environ au-dessus d'une vaste étendue bleue. Stupéfié, il tomba comme une pierre et s'écrasa dans l'eau. Son marteau lâché, il nagea frénétiquement. Lévitant au-dessus de l'eau, Sauter affichait l'équivalent, pour un loup, d'une frange désapprobation. « Pas bon, ça. Tu dois encore apprendre. » Perrine cracha de l'eau salée. La mer était démontée. Pourtant, Sauter la chevauchait paisiblement. De nouveau, il regarda en direction du nord, mais se tourna très vite vers Perrine.
« Qu'est-ce qui te perturbe, jeune taureau ?»«
Je suis surpris, c'est tout. »
répondit Perrine en nageant rageusement.
« Pourquoi ?»«
Parce que je ne m'attendais pas à ça. »
« Pourquoi t'attendre à quelque chose? Quand on suit quelqu'un, on peut arriver n'importe où. »«
Je sais !»
répondit Perrine en recrachant de l'eau. Il serra les dents et s'imagina au-dessus de l'eau, comme Sauter. Aussitôt, son vœu fut exaucé. Voir la mer qui se déchaînait sous lui le désorienta un moment.
« Tu ne vaincras pas, tueur, comme ça. »«
Dans ce cas, je dois continuer à apprendre. »«
Il reste peu de temps. »«
J'apprendrai plus vite. »
Tu pourras.
Nous n'avons pas le choix.
Tu peux renoncer à affronter, tueur.
Perrine secoua la tête.
Avons-nous l'habitude de fuir devant nos proies? Dans ce cas, c'est que nous sommes le gibier. Je combattrai, tueur, et je serai préparé.
Il y a un moyen.
Dans l'odeur du loup, l'inquiétude montait en flèche.
Je ne reculerai devant rien.
Alors suis-moi.
Sauter disparut, et Perrine capta une odeur inattendue. Un mélange de détritus, de boue, de bois brûlé et de charbon. Des gens. Perrine se décala et se retrouva au sommet d'un bâtiment à Kemlin, une ville qu'il avait visitée une fois et en coup de vent. À ses pieds s'étendait la cité intérieure, où les antiques bâtiments, les dômes et les flèches hérissaient la colline comme des pins majestueux. Devant ce spectacle, le mari de Feil marqua une pause. Il n'était pas loin de l'ancien mur, au-delà duquel s'étendait la nouvelle cité. Assis près de lui, Sauter aussi contemplait Kemlin. D'après ce qu'on disait, une grande partie de ce bijou avait été construite par les Augiers. Devant tant de beauté et de grâce, ce n'était pas difficile à croire. Selon bien des gens, Tarvalon était encore plus sublime que Kemlin. Ça, Perrine avait franchement du mal à le croire.
« Que faisons-nous ici ? »
demanda-t-il.
« Des hommes rêvent ici, »
répondit Sauter. Dans le monde réel, c'était vrai. Dans le rêve du loup, la ville restait déserte. Malgré la pénombre provoquée par la tempête omniprésente, on était encore dans la journée, et les rues auraient dû grouiller de monde. Des femmes allant au marché ou en revenant, des nobles à cheval, des chariots lestés de tonneaux de bière et de sacs de grains, des enfants turbulents, des mendiants en quête de pièces, des travailleurs remplaçant des pavés, et bien entendu, des colporteurs entreprenants, venus proposer des tourtes à la viande à tout ce joli monde. À la place de cette foule, on trouvait des indices. Un mouchoir tombé au milieu d'une rue. Des portes ouvertes à un instant et fermées celui d'après. Un fer à cheval arraché, piégé dans la boue d'une ruelle. On eût dit que tous les êtres vivants avaient été balayés ou enlevés par des blafards sortis des histoires d'horreur d'un trou vert. Une femme apparut brièvement. Dans une superbe robe vert et or, elle sonda la rue un instant, puis disparut. Dans le rêve des loups, des gens passaient fugitivement. Quand ils dormaient, supposait Perrine, leurs songes se mêlaient très brièvement à ceux des fauves.
« Cet endroit n'appartient pas au loup, »
émit Sauter.
« Il est à tout le monde. »«
Tout le monde ?»
répéta Perrine, en s'asseyant à même le sol.
« Toutes les âmes le connaissent. Elles peuvent y venir quand elles le veulent. »«
En rêvant ?»«
Oui, »
répondit Sauter, en s'allongeant à côté de Perrine.
« Les cauchemars des humains sont très puissants, terribles même. Parfois, il les entraîne jusqu'ici. »
Sauter avait en fait émis l'image d'un loup géant qui repoussait des animaux plus petits, mais qui cherchait à l'agresser. Autour de ce loup, l'air empestait la terreur et la mort. Comme dans un cauchemar, justement. Perrine hocha lentement la tête.
Beaucoup de loups ont été piégés dans la douleur de ces songes hantés par la peur. Ils apparaissent le plus souvent là où les humains peuvent venir. Même si les rêves survivent très bien sans ceux qui les ont créés.
Sauter regarda Perrine.
Chasser dans les cauchemars augmentera ta force, mais tu risques de mourir. C'est très dangereux.
Je n'ai plus le temps de rester en sécurité. Allons-y.
Le vieux loup ne demanda pas si Perrine était sûre de son fait. Il sauta dans la rue et se reçut souplement. Perrine l'imita, avec un résultat similaire. Sauteur commençant à bondir, l'humain se lança au pas de course.
« Comment allons-nous les trouver ?»
demanda Perrine. « Cherche l'odeur de la peur, de la terreur aussi. » Perrine ferma les yeux et inspira à fond. Un peu comme avec les portes qui s'ouvraient et se fermaient sans cesse, dans le rêve des loups, il captait parfois des odeurs très fugitives. Le parfum puissant des pommes de terre d'hiver. Le crottin d'un cheval égaré là, on ne savait pourquoi. Les arômes d'une tourte à peine sortie du four. Quand il ouvrait les yeux, rien de tout ça n'était là. En fait, il n'y avait jamais rien eu, sinon des quasi-présences. « Virtuel » aurait été un mot encore plus précis.
« Là !»
dit Sauteur, en se volatilisant. Perrine le suivit et se retrouva avec lui devant l'entrée d'une ruelle étroite. À l'intérieur, il faisait trop sombre pour que ce soit naturel.
« Vas-y !» lança Sauteur. « La première fois, tu ne tiendras pas longtemps, mais je viendrai te chercher. Souviens-toi que ça n'existe pas. N'oublie pas, tout ça est faux. »
Inquiet mais résolu, Perrine entra dans la ruelle. De chaque côté, les murs étaient noirs, comme si on les avait peints. Sinon qu'ils semblaient trop sombres pour être peints. Du coin de l'œil, Perrine crut repérer un peu d'herbe, à côté de son pied droit. Le soleil ne bouillonnait plus, et le jeune homme vit quelques étoiles. La lune blafarde, bien trop grande, était entourée d'une multitude de nuages. Sa lumière en paraissait plus froide que jamais, presque comme de la glace. Perrine n'était plus en ville. Regardant autour de lui, alarmé, il s'avisa qu'il marchait dans une forêt où les arbres aux énormes troncs appartenaient à des espèces qu'il ne connaissait pas. Leurs branches nues, ces vénérables à l'écorce grise, faisaient penser à des squelettes. Perrine devait retourner en ville. Il lui fallait fuir cet horrible endroit. Il regarda autour de lui, repéra un éclair dans la nuit et se pétrifia.
« Qui est là ? »
cria-t-il. Dans sa fuite éperdue, une femme jaillit de la pénombre. En robe blanche ample, à peine plus qu'une chemise de nuit, sa crinière noire lui faisant comme une traîne, elle s'immobilisa, puis pivota, et fit mine de partir dans une autre direction. Perrine lui prit au vol le poignet et la tira en arrière. Elle résista, ses bottines laissant des ornières dans la terre. Le souffle court, elle cédait à la panique.
« Je veux savoir comment sortir de là !»
cria Perrine.
« Nous devons retourner en ville !»
L'inconnu croisa le regard du jeune homme.
« Il arrive !»
siffla-t-elle. Dégageant son poignet, elle détala et disparut dans la nuit, enveloppée par les ténèbres comme par un linceul. Les mains tendues, Perrine fit un pas en avant. Entendant du bruit dans son dos, il se retourna et découvrit une masse énorme. Une silhouette large et haute qui occultait les rayons de lune. En respirant, la créature semblait absorber toute la vitalité et la volonté de Perrine. Ce monstre était plus grand que les arbres. Les bras gros comme des tonneaux, ses traits noyés dans les ombres, il ouvrit ses yeux rouges semblables à deux boulettes de charbon incandescent.
« Il faut que je l'affronte !»
pensa Perrine. Aussitôt, son marteau se matérialisa entre ses mains. Il fit un pas en avant, puis se ravisa. Lumière ! Cette créature était gigantesque ! La combattre serait impossible, surtout sur ce genre de terrain. Il aurait fallu avoir des défenses naturelles. Perrine fit demi-tour et courut dans la forêt menaçante. Bien entendu, l'abomination le suivit. Dans son dos, il entendit briser des branches et marteler le sol au point de l'en faire trembler. Devant lui, Perrine aperçut la femme, soudain immobilisée parce que l'ourlet de sa robe blanche s'était pris dans une branche. Mais elle se libéra et courut de plus belle. La créature tutoyait le ciel. Si elle attrapait Perrine, elle le réduirait en bouillie. Il appela la fugitive et tendit un bras vers elle. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, la jeune femme trébucha. Perrine jura dans sa barbe. Puis il approcha de l'inconnu afin de l'aider à se relever. Mais le monstre était si proche. Eh bien, il allait falloir se battre. Le cœur affolé et les paumes moites, Perrine se retourna pour affronter le monstre. Jusqu'au bout, il tenterait de se dresser entre la jeune femme et lui. Ses yeux rouges incandescents, la créature approchait. Lumière ! Comment vaincre une telle montagne ? Il fallait un avantage à Perrine, quel qu'il soit.
« Cette créature, c'est quoi ? »
demanda-t-il à l'inconnu.
« Pourquoi nous poursuit-elle ? »
« C'est lui ! »
cria la fugitive.
« Le dragon réincarné !»
Perrine se pétrifia. « Le dragon réincarné ? Mais c'était Rand !»«
Je suis dans un cauchemar !»
se souvint-il.
Rien de tout ça n'est réel. Pas question de me laisser piéger.
Le sol trembla comme s'il était prêt à s'ouvrir. La chaleur des yeux du monstre Perrine la sentait. Dans son dos, la femme venait de repartir à la course, le laissant seul. Perrine se raidit, les jambes mal assurées, son instinct lui criant d'imiter l'inconnu. Mais il n'en fit rien. Quant à se battre, c'était également hors de question. Ce cauchemar, il ne le tiendrait pas pour réel. Un loup rugit, puis bondit. Par sa seule présence, Sauter sembla repousser les ténèbres. La créature se pencha vers Perrine et tendit un bras pour l'écrabouiller. Mais il était dans une ruelle, à Kemlin. Le reste n'existait pas. N'existait pas. Les ténèbres disparurent et le monstre géant se fragmenta comme un morceau de tissu qu'on déchire. Là-haut, la lune se volatilisa. Sous les pieds de Perrine, le sol redevint celui d'une ruelle. Très loin d'une forêt et d'une créature monstrueuse qu'une inconnue prenait pour le dragon réincarné, Perrine était de retour à Kemlin, Sauter assis près de lui. Le front ruisselant de sueur, il relâcha lentement son inspiration. Une main levée pour s'essuyer le visage, il renonça et se sécha par la simple force de sa volonté. Sauter repartit et il le suivit jusqu'au toit où tout avait commencé. Là, il s'assit pour récupérer. Penser au monstre noir suffisait à lui arracher des frissons.
« Ça paraissait si réel, » dit-il. Une partie de moi savait que c'était un cauchemar, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir me battre ou m'enfuir. Quand j'essayais l'un ou l'autre, la créature gagnait de la substance, pas vrai? Parce que j'acceptais son existence.
C'est ça. Tu ne dois pas croire tout ce que tu vois.
Il y avait une femme avec moi. Une part du songe? Elle était réelle?
Oui.
Il s'agissait peut-être de son cauchemar,
avança Perrine.
C'était elle qui faisait le mauvais songe originel, prisonnière du rêve des loups.
Les humains qui rêvent ne restent jamais longtemps ici. Pour Sauter, ça mettait un point final au sujet. Tu as été fort, jeune taureau. Bravo.
De la fierté dans l'odeur du loup?
Quelqu'un a appelé le monstre « dragon réincarné ». Ça m'a aidé. C'était la preuve que tout ça n'existait pas. Ainsi j'ai pu le croire.
Tu t'en es bien tiré, stupide louveteau,
répéta Sauter.
Au fond, tu es peut-être capable d'apprendre.
Seulement si on continue à s'entraîner. Il faut qu'on recommence. C'est possible?
Oui. Quand des humains sont dans le coin, les cauchemars ne manquent pas.
Cependant, le vieux loup se tourna de nouveau vers le nord. Jusque-là, Perrine pensait que son attention était attirée par des rêves. Mais ça ne semblait pas être le cas.
Qu'y a-t-il là-bas? Que regardes-tu sans cesse?
Elle approche.
Quoi?
La dernière chasse. Elle commence. Ou peut-être pas.
Perrine fronça les sourcils et se releva.
« Tu veux dire en ce moment même ?»«
La décision sera prise sous peu. »«
Quelle décision ?»
Les messages de Sauter devinrent confus. Lumière et ténèbres, du vide et un feu, un froid mortel et une chaleur insupportable. Le tout mêlé à des rugissements de loups, des cris, des appels à la résistance.
« Viens !»
Sauter se leva et tomba la tête vers le nord. Dès qu'il eut disparu, Perrine le suivit. Et se matérialisa au pied d'un versant du pic du dragon, près d'une flèche rocheuse.
« Lumière !»
souffla-t-il, stupéfié. La tempête qui couvait depuis des mois était enfin à maturité. Un nuage noir géant colonisait le ciel et enveloppait le sommet des montagnes. Énorme vortex d'obscurité, il dérivait lentement, lâchant des éclairs qui le reliaient à d'autres nuages au-dessus de lui. Dans d'autres régions du rêve des loups, les nuages étaient menaçants, certes, mais encore lointains. Ici, on se trouvait au plus fort du cyclone. Oui, au centre de quelque chose, Perrine le sentait. Souvent, dans le rêve des loups, des composantes du monde réel se reflétaient d'une manière étrange ou inattendue. Sauter s'était perché sur la flèche rocheuse. Sur les pentes du pic du dragon, sentit Perrine, il y avait des loups partout. En plus grand nombre encore que ce qu'il avait capté récemment.
« Ils attendent, » émit Sauter. « La dernière chasse approche. »
Quand il sonda la zone, Perrine découvrit que d'autres meutes étaient en route pour le pic du dragon. Encore distantes, mais elles arriveraient bientôt. Perrine leva les yeux sur l'extraordinaire pic. La tombe du dragon, Loustérin Telamon. Un monument à sa folie, à ses triomphes et à ses fiascos. Le symbole de son orgueil et de son sens du sacrifice.
« Les loups !»
dit Perrine.
« Ils se rassemblent pour la dernière chasse ?»«
Oui, si elle a lieu. »
Le jeune homme se tourna vers Sauter.
« Tu as dit qu'elle est proche, imminente même.
Un choix devra être fait, jeune taureau, et un chemin conduira à la dernière chasse.
Et l'autre ?
Sauteur tarda à répondre. Avant, il tourna la tête vers le pic du dragon.
L'autre chemin n'y conduira pas.
J'ai bien compris. Mais vers où ira-t-il ?
Le néant. Nulle part.
Perrine ouvrit la bouche pour poser d'autres questions, mais il mesura soudain tout le poids des propos de Sauteur. Pour lui, le néant, ça signifiait une tanière vide. Tous les louveteaux capturés par des trappeurs. Une nuit sans étoiles. La lune agonisant. L'odeur d'un sang très ancien, sec, amer et craquelé. Perrine referma la bouche. Au-dessus de sa tête, la tempête noire torturait toujours le ciel. Dans le vent, il sentait l'odeur de la terre, des arbres déracinés, des champs inondés et des incendies allumés par la foudre. Comme si souvent, surtout ces derniers temps, ces odeurs contrastaient fortement avec le monde qui l'entourait. Un de ses sens lui criait qu'il était à l'épicentre d'une catastrophe, et les autres ne remarquaient rien d'inquiétant.
« Ce choix, pourquoi ne le faisons-nous pas ?»«
Parce que ce n'est pas notre choix, jeune taureau. »
Perrine se sentit soudain attirée par le nuage géant. Contre sa volonté, il commença à gravir la pente, Sauteur derrière lui.
« Là-haut, c'est dangereux, jeune taureau. »
« Je sais. »
Mais pas question de s'arrêter. Au contraire, il accéléra le rythme, chaque pas un peu plus long que le précédent. Sauteur à ses côtés, ils passèrent devant des arbres, des rochers et des meutes de loups qui les regardaient. Ensemble, le loup et l'humain grimpèrent, jusqu'à ce qu'ils aient dépassé la lisière des arbres, le sol se couvrant de givre, puis de glace. Quand ils furent assez près du nuage géant, ils constatèrent que c'était une sorte de brouillard noir, traversé par d'étranges courants, tandis qu'il tournait sur lui-même. Perrine hésita, puis il pénétra dans cette brume, comme s'il retournait dans le cauchemar. Le vent se fit violent et l'air vibrant d'énergie contenue. Dans ce cyclone, des feuilles, des brindilles et de la terre tourbillonnaient. Pour s'en protéger, Perrine dut lever une main.
« Non !»
pensa-t-il. Aussitôt, une zone plus calme se forma autour de lui. Mais les bourrasques se déchaînaient tout près de son visage, et il devait résister pour ne pas les laisser l'emporter. Cette tempête n'était ni un rêve ni un cauchemar. Bien plus réelle que ça, elle se révélait aussi beaucoup plus vaste. Cette fois, avec sa bulle de sécurité, c'était Perrine qui générait un phénomène anormal. Il avança et s'avisa bientôt qu'il laissait des traces dans la neige. Sauteur le précédait, luttant contre le vent, et le préservant ainsi en partie de ses effets. À ce jeu, le loup était bien meilleur que l'humain, à peine capable de maintenir sa bulle bienveillante. Sans elle et sans Sauteur, il aurait sans doute été aspiré par le cyclone, puis propulsé dans le tourbillon. À côté de lui, il vit passer de grosses branches et même quelques petits troncs. Sauteur ralentit, puis s'assit dans la neige et leva la tête pour observer le sommet.
« Je ne peux pas rester. Je n'ai rien à faire ici. »«
Je comprends, »
souffla Perrine. Le loup disparut, mais il continua. Sans pouvoir expliquer ce qui le poussait à grimper, il savait qu'on avait besoin de lui comme témoin. Que quelqu'un en avait besoin. Des heures durant, il avança avec deux idées en tête. Se protéger du vent et mettre un pied devant l'autre. La tempête se déchaînait, tellement qu'il dut se contenter de n'en repousser qu'une partie. Arrivé à l'endroit où le sommet du pic était brisé, il se recroquevilla sur lui-même pour résister aux bourrasques et avança sur une corniche donnant sur le vide. Le vent lui cinglant le visage, il dut plisser les yeux pour se protéger de la terre et des flocons qu'il charriait. Mais il continua, avide d'atteindre le sommet, qui se dressait au-dessus de la moitié verticale manquante du pic. S'il arrivait tout en haut, il trouverait ce qu'il cherchait, c'était certain. L'horrible maelstrom devait être la réaction du rêve des loups à quelque chose de plus important et de plus terrible. En ce lieu, parfois, les choses étaient plus vraies que dans le monde réel. Si le songe reflétait une tempête, quelque chose d'important se passait de l'autre côté. Un événement terrifiant, aurait juré Perrine. Il continua, l'ascension transformée en escalade. Mais il s'était très bien entraîné, ces dernières semaines, sautant au-dessus d'abîmes qu'il n'aurait pas pu maîtriser et négociant des rochers qui auraient été beaucoup trop gros pour lui. Sur le pic, il repéra une silhouette. Du coup, il accéléra encore le rythme. Quelqu'un devait être là pour observer. Quand ça arriverait, il fallait qu'il y ait un témoin. Après une longue lutte, Perrine mit pied sur une ultime saillie rocheuse, à moins de 10 pas du sommet. La silhouette, il la distinguait nettement à présent. Debout à la croisée des vents, l'homme immobile sondait l'est. Translucide, avec très peu de substance, il n'était qu'un reflet du monde réel, une sorte d'ombre. Perrine n'avait jamais rien vu de semblable. Bien entendu, il s'agissait de Rand. Ça, il s'en doutait depuis le début. Se tenant d'une main à la roche, Perrine, de l'autre, resserra les pans du manteau dont il s'était doté un peu plus tôt. Ses yeux jaunes bordés de rouge, il regarda devant lui, en hauteur. En même temps, il continua à se concentrer pour empêcher les vents de l'arracher de son perchoir. Un éclair zébra le ciel, et le tonnerre gronda pour la première fois depuis le début de l'ascension. Bizarrement, l'éclair s'enroula autour du sommet, comme s'il entendait le couronner. Quoi qu'il en soit, il éclaira le visage de Rand. Un masque d'impassibilité, aussi dur que du marbre. Mais où étaient passées les joues encore un peu rondes de naguère? Où Rand avait-il gagné tant de rides et d'angles? Et ses yeux? Eux aussi semblaient être en marbre. Vêtu d'une veste noire et rouge brodée de très bonne qualité, il portait une épée à la hanche. Bizarrement, le vent ne faisait pas voler ses vêtements, qui ne bougeaient pas d'un pouce, comme ceux d'une statue. Seuls les cheveux de Rand s'abandonnaient à la puissance du vent. Les mains et les pieds glacés au point qu'il ne les sentait plus, Perrine s'accrocha à la roche comme à une planche de salut. Alors que la bise s'attaquait à ses joues, sa barbe gelait, menaçant de se casser en mille morceaux. Autour de Rand, une masse noire commença à tourner. Rien à voir avec la tempête, on eût plutôt dit que des ténèbres s'écoulaient du dragon. Des tentacules noirs poussaient de sa peau, et on eût cru assister à la naissance d'un démon.
« Rand !»
cria Perrine.
« Bats-toi !»
Sa voix se perdit dans les bourrasques. De toute façon, il doutait que Rand l'aurait entendu, même dans le cas contraire. La noirceur continuait de s'écouler du dragon, générant autour de lui une sorte de rideau de brume nauséabonde. Très vite, Perrine ne vit plus son ami, comme piégé dans un cocon de peur et de dégoût. Peu à peu, le dragon réincarné disparaissait, et il ne restait plus que son aura démoniaque.
« Rand, s'il te plaît !»
souffla Perrine. Soudain, au cœur de l'obscurité, comme venu du centre de la tempête, une étincelle jaillit au cœur même du mal. La lueur d'une flamme, au plus profond d'une nuit d'encre. Comme un phare, cette lueur semblait indiquer la direction du ciel. Mais le phénomène semblait si fragile. La tempête la souffla. Les vents hurlaient et la foudre s'abattait au sommet du pic, lui arrachant de gros fragments de roche. Les ténèbres poussaient leur avantage. Pourtant, la lueur revint. Un réseau de fissures apparut sur le cocon d'obscurité maléfique, comme si de la lumière brillait à l'intérieur. Une entité très forte était piégée dans le vortex, une masse luisante qui se mit soudain à scintiller. Le cocon explosa, se volatilisa, et se transforma en une colonne de lumière si vive que Perrine craignit un instant que ses yeux en soient à jamais brûlés. Il ne détourna pas la tête et ne leva pas un bras pour occulter l'image aveuglante devant lui. Rand se tenait sous cette lumière, la bouche ouverte comme s'il voulait insulter le ciel. Alors que la colonne de lumière montait vers la tempête, celle-ci semblait prise de convulsions, et le ciel lui-même commença à vaciller. Puis la tempête disparut. La colonne surréaliste devint simplement une flèche de rayons de soleil assez puissante pour illuminer le sommet du pic du dragon. Perrine lâcha la roche et, stupéfiée, contempla Rand, désormais auréolé d'une incroyable quantité de lumière. Le mari de Fail ne parvint pas à se rappeler quand il avait vu pour la dernière fois la lumière du soleil dans toute sa pureté. Les loups rugirent tous en même temps. Un cri de triomphe, de gloire et de victoire. Perrine inclina la tête et cria avec eux. Un moment, redevenu jeune taureau, il sentit le bassin de lumière s'étendre et le prendre sous son aile. Aussitôt, la sensation de froid ne fut plus qu'un lointain souvenir. Quand le reflet de Rand disparut, Perrine s'en aperçut à peine, puisqu'il laissait derrière lui une si magnifique lumière. Se matérialisant au milieu d'un bond, des loups apparurent autour de Perrine. Ils continuèrent à hurler, fous de joie, sous la lumière du soleil qui les inondait de ses bienfaits. Dans leur enthousiasme, ils soulevaient des gerbes de neige à chaque bond. Sauteur était du lot. Prenant son envol, il vint à la rencontre de Perrine.
« La dernière chasse commence, jeune taureau. Nous sommes vivants. Oui, vivants. »
Perrine regarda l'endroit où s'était tenu Rand. Si ses ténèbres l'avaient emporté. Mais non, ce n'était pas ça. Le jeune homme sourit aux anges.
« La dernière chasse a commencé !»
cria-t-il au loup.
« Qu'elle vienne à nous !»
Les animaux hurlèrent leur assentiment, leur voix aussi forte que le rugissement de la tempête, un peu plus tôt.